William et Mary. William Pearl ne laissa que très peu d'argent en mourant et, à l'exception de quelques petits legs destinés à des parents, tous ses biens allaient à son épouse. Tout fut réglé rapidement au bureau du notaire, puis la veuve se leva pour prendre congé, le notaire tira alors du dossier qui se trouvait devant lui une enveloppe cachetée et la tendit à sa cliente. « J'ai été chargé de vous remettre ceci, » dit-il. « Votre mari nous l'a fait parvenir peu de temps avant sa mort. » Le notaire paraissait blême et navré, et en signe de respect pour la veuve, il gardait la tête penchée, les yeux baissés. « Cela doit être personnel, madame. Sans doute préférerez-vous la lire lorsque vous serez seule chez vous. » Madame Pearl prit l'enveloppe et sortit. Dans la rue, elle s'arrêta pour palper l'objet du bout des doigts, une lettre d'adieu de William, sans aucun doute. Une lettre cérémonieuse. Cérémonieuse, elle l'était obligatoirement, et guindée, car cet homme n'avait jamais pu agir autrement, il n'avait jamais rien fait d'incorrect de sa vie. « Ma chère Mary, j'espère que mon départ de ce monde ne vous bouleversera pas trop et que vous continuerez à observer les préceptes qui vous ont été de si bons guides durant toute notre vie à deux. Soyez digne et raisonnable en toutes circonstances, soyez économe, prenez soin de ne jamais, etc., etc. Une lettre dans le style de William. Ou bien aurait-il craqué au dernier moment ?» pour lui écrire quelque chose de beau, d'humain, d'émouvant. Était-ce un tendre message, une sorte de lettre d'amour pleine de regrets et de reconnaissance, la remerciant de lui avoir donné 30 années de sa vie, de lui avoir repassé 1 million de chemises, cuisiné 1 million de repas, de lui avoir fait 1 million de lits, une lettre qu'elle pourrait lire et relire tous les jours et qu'elle garderait dans sa boîte à bijoux sur sa coiffeuse. Il est difficile d'imaginer les sentiments d'un homme qui est sur le point de mourir, se dit Madame Pearl. Elle serra l'enveloppe sous le bras et pressa le pas. Rentrée chez elle, elle se dirigea tout droit vers la salle de séjour. Sans même enlever son chapeau ni son manteau, elle s'assit sur le sofa, ouvrit l'enveloppe et examina son contenu. Elle trouva 15 ou 20 feuilles de papier blanc réglé, retenues par une agrafe et que couvrait la petite écriture ferme et serrée aux lignes descendantes qui lui était si familière. Mais lorsqu'elle vit la densité du texte, le ton sec, l'introduction dépourvue de gentillesse, elle ne put s'empêcher de devenir soupçonneuse. Elle leva les yeux, puis elle alluma une cigarette, en tira une bouffée et la laissa dans le cendrier. « Si c'est au sujet de ce que je pense, dit-elle, je préfère ne pas la lire. » « Mais peut-on refuser de lire une lettre posthume ?»« Oui, bien. » Son regard se posa sur le fauteuil vide de William, de l'autre côté de la cheminée, un grand fauteuil de cuir marron. Au milieu, le creux qu'avait fait son séant au cours des ans. Plus haut sur le dossier, une tache sombre et ovale, là où il avait coutume de poser sa tête quand il lisait tandis qu'elle s'asseyait sur le sofa en face de lui pour recoudre des boutons, raccommoder des chaussettes, ou poser une pièce au coude d'une de ses vestes. De temps à autre, il levait sur elle un regard, attentif certes, mais étrangement impersonnel, comme s'il calculait quelque chose. Elle n'avait jamais beaucoup aimé ses yeux. Ils étaient d'un bleu de glace, petits, plutôt rapprochés, séparés par 2 profonds traits verticaux et désapprobateurs. Il n'avait jamais cessé de la guetter, et même maintenant qu'elle était seule depuis 8 jours, elle les sentait encore parfois péniblement présents, et qui la suivait partout, et qui la fixait depuis la porte, depuis les chaises vides, ou même par la fenêtre, la nuit. Lentement, Elle tira de son sac une paire de lunettes et les chaussa, puis, à la lueur du soleil couchant, elle se mit à lire. « Cette note, ma chère Mary, est pour vous seule et vous sera remise peu après ma mort. Ne vous alarmez pas à la vue de toutes ces pages. Je tente simplement de vous faire comprendre ce que lundi va faire de moi, quels sont ses principes, ses espoirs, et pourquoi j'ai donné mon accord. Vous êtes ma femme, et comme telle, vous ne devez pas ignorer ces choses. Au cours des derniers jours, j'ai essayé vainement de vous parler de lundi, mais vous refusiez obstinément de m'écouter. Comme je vous l'ai déjà fait remarquer, c'est là une attitude stupide et qui ne me paraît pas absolument dépourvue d'égoïsme. Elle est due en grande partie à votre ignorance, et je suis persuadé que si vous aviez connu tous les faits, vous auriez aussitôt changé d'avis. C'est pourquoi j'espère que, lorsque je ne serai plus là, et que votre esprit sera moins absorbé, vous consentirez à m'écouter avec plus d'attention à travers ces pages. Je suis certain que, lorsque vous aurez lu mon récit, votre antipathie s'évanouira pour faire place à l'enthousiasme. J'ose même espérer que vous éprouverez un peu de fierté. Il faut que vous me pardonniez, si vous le voulez bien, la froideur de mon style. Mais c'est la seule manière que je connaisse de vous transmettre clairement mon message. Voyez-vous, à mesure que ma fin approche, je sens naître en moi toutes sortes de sentiments. Chaque jour, mon désenchantement se fait plus violent, surtout le soir. Et si je ne me surveille pas rigoureusement, mes émotions iront jusqu'à inonder ces pages. Je désire, par exemple, écrire quelque chose sur vous pour dire quelle épouse satisfaisante vous avez été pour moi pendant toutes ces années. Et je me promets que, si je trouve encore le temps et la force de le faire, je le ferai. J'aspire aussi à parler de cet Oxford où j'ai vécu et enseigné durant les dernières 17 années. J'aimerais dire ce que signifie pour moi la gloire de ce haut lieu, exprimer l'émotion que j'éprouve à l'idée d'avoir eu l'honneur d'y travailler, toutes les choses, tous les endroits que j'ai aimés. Me reviennent maintenant entre ces tristes murs. Les images sont belles et pleines de clarté. Et aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison, je les revois avec plus de netteté que jamais. Le sentier qui longe le lac de Worcester College et où Lovelace avait coutume de se promener. Le portail de Pembroke, le panorama qu'on découvre du haut de la tour Magdalen, le grand vestibule de Christchurch, le petit jardin de rocaille de St. John's, où j'ai compté plus de 12 variétés de campanules, dont la rare et précieuse Waldsteiniana. Eh bien, vous voyez, je n'ai même pas commencé mon récit, et me voilà qui tombe déjà dans le piège. Je vais donc commencer maintenant. Lisez lentement, ma chère, et chassez la tristesse, la désapprobation, enfin tout sentiment qui pourrait vous empêcher de comprendre. Oui, promettez-moi de lire lentement, dans un état d'esprit dépourvu d'impatience et d'inquiétude. Les détails de la maladie qui m'a terrassé dans la force de l'âge vous sont connus, inutile de perdre du temps pour en parler, ne serait-ce que pour admettre que j'ai été stupide de n'avoir pas consulté plus tôt mon médecin. De nos jours, le cancer est une des rares maladies qui résistent aux médicaments nouveaux. Il peut être opéré s'il n'est pas encore trop étendu, mais en ce qui me concerne, non seulement je l'avais signalé trop tard, mais la chose a eu le toupet de m'attaquer au pancréas, ce qui rendait impossible et l'opération et la survie. Voilà donc où j'en étais. Il me restait 1 à 6 mois à vivre et je devenais plus mélancolique à chaque heure lorsque tout à coup survint lundi.